crime s'installe ce soir au bord du lac Léman. Nous allons vous raconter trois histoires, trois faits divers qui se sont déroulés au bord du lac. Le 18 décembre 1988, quatre adolescents découvrent sous un ponton du lac Léman un sac qui flotte. Avec stupeur, ils aperçoivent à l'intérieur le corps d'une jeune fille de 18 ans, Adèle. Assistante dentaire dans un cabinet zurichois, personne ne lui connaissait d'ennemis. Alors, pourquoi un tel crime? C'est le début d'une sordide affaire qui va occuper policiers et tribunaux genevois pendant des années.
Là, c'est vraiment l'explosion. Là, la presse, évidemment, se déchaîne, évidemment, la population derrière aussi, parce que ça devient vraiment sordide. Ça devient horrible. C'est là qu'on commence à les appeler le couple diabolique.
Le 6 août 2011, le commissariat d'Annemasse reçoit un appel anonyme étrange. Une voix masquée prévient les policiers qu'un corps a été retrouvé sur un terrain vague à quelques kilomètres de la frontière suisse. Une information qui s'avère juste puisque les policiers retrouvent sur place le cadavre d'un homme, la tête face contre terre, avec une balle dans le crâne. Seule, l'étude de la plaque minéralogique de la voiture garée juste à côté permet de l'identifier. Il s'agit de Grégory, 34 ans, jeune libraire à Annemasse. Alors, qu'a-t-il bien pu arriver à cet homme, apparemment sans histoire?
Vous dites pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Et puis, c'est néant, c'est le trou complet. Vous décidez, coûte que coûte, il faut que j'aille voir ce qui s'est passé sur place. Il faut que je sache la réalité. Pourquoi? Comment?
Le 4 janvier 2006, un jardinier va faire une bien étrange découverte. Après avoir remarqué que le courrier s'entassait dans la boîte aux lettres d'une des maisons pour laquelle il travaille, il décide finalement d'aller jeter un coup d'œil à l'intérieur. Et c'est là qu'il découvre l'horreur. Au rez-de-chaussée de la villa, deux chiens à demi-morts. Et au sous-sol, gisent les corps de deux femmes en état de décomposition avancée. Alors qui sont ces deux femmes et qui pouvait leur en vouloir? C'est l'incroyable enquête que vont tenter d'élucider les policiers du canton de Vaud.
Un crime comme l'affaire Léja, il y en a deux ou trois par siècle dans le canton de Vaud. C'est d'une ampleur assez extraordinaire dans le sens originel du terme. On n'a pas l'habitude de voir des choses comme ça en Suisse.
Crime toujours installé au bord du lac Léman pour vous raconter cette affaire qui s'est déroulée le 18 décembre 1988. Quatre adolescents vont découvrir au bord de ce lac un sac qui flotte. À l'intérieur se trouve une jeune femme, elle a 18 ans, elle est morte et elle s'appelait Adèle. Voici ce document pour crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir comment une femme, en apparence bien sous tout rapport, va monter un scénario des plus diaboliques et commettre l'irréparable par jalousie. Un crime sordide et un drame qui va rester ancré dans la mémoire de tous les genevois.
Là, c'est vraiment l'explosion. Là, la presse, évidemment, se déchaîne, évidemment, la population derrière aussi, parce que ça devient vraiment sordide. Ça devient horrible. C'est là qu'on commence à les appeler le couple diabolique.
Nous sommes en Suisse, dans le petit village de Vézena. Entre lacs et montagnes, la commune est réputée pour son calme et sa vue de carte postale sur le lac Léman. Les habitants de la région et les touristes de passage y viennent avant tout pour se reposer.
C'est un village résidentiel avec beaucoup de villas et beaucoup de verdure. Ce sont des gens aisés qui ont souvent un poste important dans leur vie privée.
Vézena est un village à environ 7 km de Genève. Qui conduit au bord du lac.
C'est à cet endroit que le dimanche 18 septembre 1988, à 9h du matin, quatre courageux adolescents décident de braver la météo pour s'adonner à leur sport favori, l'aviron.
Ils ont pris leurs avirons, ils sont allés sur le ponton, qui est un ponton assez bas, comme ça sur l'eau, pour pouvoir rentrer dans les skiffs. Et puis là, il y avait un sac rouge qui dépassait un peu.
ils ne prêtent pas autrement attention et vont faire leur exercice ou leur sport.
Après quelques longueurs, les quatre sportifs regagnent le rivage vers midi. Et à leur retour, ils constatent que le sac qu'ils avaient observé à leur départ n'a toujours pas bougé.
Ils constatent que ce sac est toujours là, ils s'approchent un peu plus et constatent qu'il y a une chevelure, une grande chevelure qui dépasse de ce sac. Donc ils prennent un peu peur et avertissent la police.
Inquiétés par la description de la découverte des avironneurs, la police de Genève arrive immédiatement sur les lieux. Les experts sont appelés en renfort.
Notre service scientifique, après avoir pris les photos, fixé les lieux, ouvre le sac. D'abord, ils se sont aperçus que c'était une jeune femme d'environ 20 ans. On voit qu'elle avait les jambes repliées sur elle-même, les bras aussi en croix sur la poitrine. Et il y avait des traces de cordelettes autour des poignets et des jambes. Cette jeune femme était totalement nue, pas de bijoux, pas de papier, pas d'habit, rien du tout.
Impossible alors pour les policiers d'identifier la jeune femme. Qui est-elle et quelles sont les circonstances exactes de sa mort ? À Vézena, les experts continuent leurs investigations et ne constatent aucune trace de lutte sur le corps de la victime. Ils se mettent en quête d'indices et c'est au fond du lac qu'ils vont faire une étrange découverte.
Les experts, en fait, ne trouvent pas grand-chose, si ce n'est des pointelles. Ce sont des grandes barres de fer que les maçons utilisent pour soutenir une dalle en béton. Et des éléments étaient à côté du sac, au fond de l'eau.
Des outils qui, selon les experts, auraient servi à lester le corps au fond de l'eau. Mais un autre élément attire l'attention des policiers.
Sur le ponton, au début du ponton, on a trouvé des traces de sang qui ont été prélevées par notre service technique pour savoir à qui ils pouvaient appartenir. Voilà les seules traces finalement qu'on a pu trouver sur les lieux.
Les scellés sont envoyés au laboratoire. Et en attendant qu'ils parlent, les enquêteurs quittent les lieux et laissent deux policiers en faction chargés de surveiller la zone.
Les policiers devaient surveiller, de contrôler tout mouvement et identifier les personnes qui s'approcheraient de ce ponton pour éventuellement voir le corps ou en tout cas des personnes qui pourraient être suspectes.
De retour dans les bureaux, les inspecteurs ont une priorité, mettre un nom sur la victime.
Dans un premier temps, la police a regardé s'il y avait des disparitions signalées au niveau d'abord cantonal puis suisse. Qui pourrait correspondre à cette femme. Et c'était négatif.
En parallèle, sur les lieux de la découverte du corps, les policiers en faction relèvent les identités de toute personne présente. Et parmi eux, le comportement d'un couple de trentenaires les intrigue.
Autour des 22h, un couple s'approche de ce ponton. Les policiers les trouvent un peu suspects et les contrôlent de toute façon. Ils n'ont pas de papier d'identité, si ce n'est que M. D a une carte de dentiste sur lui. Il dit, voilà, je suis dentiste à Genève. Le contrôle est fait et les policiers, après avoir pris les identités, les laissent partir.
Mais une demi-heure plus tard, coup de théâtre.
22h30, une femme téléphone à la police lausannoise en disant, voilà, je m'accuse d'un meurtre que j'ai commis.
Quand ils ont été repérés, revenant sur les lieux de leur crime, le lendemain, eh bien, ils se sont dit, là, avec tous ces éléments, on va être repérés, on va être reconnus, et donc autant nous dénoncer.
Et c'est ainsi que nous nous sommes rendus au domicile de ces personnes, de Daniel et de Thérèse, et les avons interpellés sur place.
Le couple est immédiatement emmené au commissariat de Genève pour y être interrogé. Mais qui sont Daniel et Thérèse ? Pourquoi ont-ils tué cette jeune femme ? Et d'ailleurs, qui est la victime ? Au commissariat de Genève, les policiers s'intéressent tout d'abord au profil de l'épouse qui vient de s'accuser du meurtre.
Thérèse, d'abord, c'est l'épouse d'un dentiste, bon sous tout rapport, je dirais, qui travaille ici à Genève sans problème particulier, qui l'assiste en partie dans ses activités de dentiste.
Thérèse a 31 ans. Elle est d'origine polonaise et mariée avec Daniel depuis 5 ans. Elle est décrite par ses voisins comme une femme sociable et a priori sans histoire.
Thérèse était une femme très agréable et très sympathique et qui souvent nous faisait un petit coucou en passant et en se rendant au cabinet médical, au cabinet dentaire qu'elle avait au-dessus.
Daniel est quant à lui d'un caractère plus discret, mais tout autant apprécié par son entourage. Face aux enquêteurs, la femme révèle l'identité de la victime. Il s'agit d'Adèle. Elle avait 18 ans et était l'assistante dentaire de son mari. Et si Thérèse avoue avoir tué la jeune femme, elle affirme qu'il s'agit d'un accident.
Adèle est la fille d'immigrés italiens venus en Suisse dans les années 60. Elle est vraiment la fille modèle d'une famille attentive.
Alors Adèle travaille depuis relativement peu de temps pour le dentiste et dans le cabinet de Genève. Elle travaille à entière satisfaction de Daniel. Par contre, elle a des problèmes assez rapidement avec Thérèse. Adèle avait pour mission, entre autres, d'écrire des lettres à de nouveaux clients. Et elle faisait beaucoup de fautes d'orthographe.
La femme du dentiste raconte aux enquêteurs que le jour du drame, elle avait demandé à Adèle de venir exceptionnellement au cabinet sur son jour de congé pour rédiger des courriers.
Elle utilisait le chloroform, soi-disant, pour enlever des taches sur le parquet et surtout pour nettoyer les plantes.
Thérèse explique alors aux enquêteurs que c'est une faute d'orthographe d'Adèle qui l'a fait sursauter.
Thérèse dit qu'elle a renversé le chloroform. Elle prend des chiffons qu'elle a sous la main, elle nettoie ce produit et passe derrière Adèle pour aller le jeter dans une poubelle.
Adèle aurait alors lancé un regard narquois à la femme du dentiste. Un regard qui lui a fait perdre la raison et commettre l'irréparable.
Elle lui aurait mis le chiffon sur la bouche. Adèle s'est levée, a crié « Mais vous êtes folle !» Elle a voulu sortir par la porte principale et Thérèse, accrochée par les habits, la tire en arrière. Et Thérèse dit qu'elle a mis une seconde pression et Adèle, assez vite, n'a plus bougé.
Paniquée par son geste, Thérèse déshabille Adèle, dissimule le corps dans un grand sac de voile rouge et attend le retour de son mari.
Elle dit à son mari, ça va pas bien du tout, écoute, il faut que je te dise quelque chose, mais j'arrive pas à le dire. Le mari insiste, et là, elle lui demande, est-ce que tu m'aimes ? Oui, je t'aime, tu le sais bien. Et finalement, elle lui dit, j'ai tué Adèle. Adèle est morte, je l'ai pas fait exprès.
À ce moment-là, une folie plus grande encore s'empare non seulement de la responsable du meurtre, mais de son mari qui la rejoint, qui découvre le corps de la victime et qui, au lieu d'avoir un sursaut de rationalité, emboîte le pas de sa femme et décide avec elle de faire disparaître le corps.
Commence alors pour le couple un long périple pour se débarrasser du corps. Entre 22h et 6h du matin, Daniel et Thérèse vont faire le tour du lac Léman à la recherche du lieu idéal. Mais à chaque fois, ils sont dérangés par des passants. Ils rentrent finalement à leur domicile avec le corps d'Adèle dans le coffre.
Vers 7h, Monsieur Daniel est parti tout seul avec le corps. C'est là qu'il est allé à Vézona, au bord du lac, pour la noyer.
Mais le corps est mal lesté et le dentiste doit s'y reprendre à plusieurs fois pour faire sombrer le sac. Par amour pour sa femme, Daniel a rempli sa mission.
Daniel a toujours été quelqu'un qui a dit les choses plus ou moins telles qu'elles se sont passées. C'est pas quelqu'un qui voulait soit mentir ou tricher. Il a vraiment exécuté ce qu'on lui disait et son souci était de se débarrasser de ce corps. C'est tout.
Les enquêteurs sont stupéfaits par les aveux du couple. Mais s'agit-il vraiment d'un accident, comme l'affirme Thérèse ? Et si c'est le cas, pourquoi ne pas avoir prévenu les secours ? La femme du dentiste dit-elle vraiment toute la vérité ? Le lendemain de la découverte du corps d'Adèle, le témoignage des proches va permettre aux enquêteurs genevois de comprendre ce qui se passait réellement au sein du cabinet dentaire.
Nous avons appris, en fait, par la cousine d'Adèle, qu'il y avait des problèmes. Thérèse venait souvent harceler Adèle pour savoir que faisait son mari, où était-il. Ou alors elle venait brusquement dans le cabinet, exiger quelque chose, mais toujours d'un ton agressif.
Thérèse est convaincue que son mari la trompe avec d'autres femmes.
On sait que ce couple, enfin qu'elle, elle est jalouse, que c'est un couple amoureux. Lui, il dit assez rapidement, je crois qu'il l'aime beaucoup, qu'elle n'a pas de raison d'être jalouse, mais elle, elle est jalouse.
Pour les enquêteurs, le vrai mobile se dessine. Thérèse soupçonne Adèle d'avoir une liaison avec son époux. Une hypothèse confirmée par l'enquête de voisinage.
Elle avait demandé, ce qui était assez surprenant, au locataire, qui était quand même au 4e, 5e, si cette Adèle sortait avec son mari Daniel.
Elle soupçonnait son calme mari de pratiquer l'adultère ou de vivre la séduction, un certain charme de cette jeune Adèle qui était jolie, simple, dévouée, enfin qui était exactement le contraire du tremblement de terre perpétuel qu'elle était.
Adèle est pourtant bien loin de l'assistante dentaire sulfureuse imaginée par Thérèse. La jeune fille a été élevée dans la plus pure tradition italienne.
Elle avait simplement un petit copain en Italie, sortait peu, était finalement timide.
Entre un mari qui aimait sa femme et une jeune fille qui était toute jeune, timide et en plus vierge, ce meurtre de jalousie était absurde.
D'autant plus que l'autopsie du corps confirme qu'Adèle était bien vierge au moment des faits. En revanche, la cause de la mort fait débat entre les experts.
Soit elle a été jetée vivante au lac, soit elle y a été jetée alors qu'elle était déjà morte. Et les expertises vont s'affronter autour de cette question, dont la réponse peut déterminer bien sûr la qualification juridique de l'homicide.
Sur ce point, le rapport de la première expertise génère l'indignation générale.
Les premiers experts avaient considéré qu'elle n'était pas morte au moment où le couple, soudainement satanique, l'avait jeté dans le lac. Ce qui, naturellement, entraînait à la charge des deux un assassinat.
Daniel avait toujours dit que Adèle avait beaucoup saigné sur le ponton. Or, une personne qui est décédée, puisqu'ils avaient prétendu qu'elle était décédée au cabinet, le samedi déjà, une personne décédée ne saigne plus.
Le couple est alors immédiatement inculpé d'assassinat. La nouvelle s'ébruite dans les médias et déchaîne les passions au sein de la population genevoise.
Là, c'est vraiment l'explosion. Là, la presse, évidemment, se déchaîne, évidemment, la population derrière aussi, parce que ça devient vraiment sordide. Ça devient horrible. C'est là qu'on commence à les appeler le couple diabolique.
Cette première expertise induit que le dentiste aurait jeté Adèle vivante dans le lac. Et il serait donc le meurtrier présumé. Mais alors, qui de Daniel ou de Thérèse est le véritable responsable de la mort de la jeune assistante ? Pour comprendre dans quelle mesure le meurtre d'Adèle était prémédité, les enquêteurs genevois s'intéressent de plus près au chloroforme qu'a utilisé Thérèse au moment du drame.
Elle a expliqué aux enquêteurs qu'elle avait acheté du chloroforme pour nettoyer les plantes, parce que paraît-il que le chloroforme fait du bien à certaines plantes vertes.
Les enquêteurs ne croient pas en cette version. Ils décident donc d'interroger l'entourage de Thérèse. Ils découvrent qu'elle avait dans l'idée d'utiliser ce produit d'une manière bien différente.
Elle s'était intéressée au chloroforme parce qu'elle avait lu des histoires dans des bandes dessinées. Et là, dans ces bandes dessinées, en fait, le chloroforme avait le pouvoir de créer l'euphorie.
Une euphorie qui, selon Thérèse, aurait permis de désinhiber Adèle et de lui faire avouer cette prétendue liaison avec Daniel.
Ces éléments mis ensemble montrent que l'acquisition du chloroforme assurément n'a jamais été motivée par le soin qu'elle voulait apporter à ces plantes vertes. C'était fait pour faire parler Adèle.
Les enquêteurs réalisent que la stratégie de Thérèse était bien rodée.
Le chloroforme n'est pas en vente libre. Alors elle a fait signer une ordonnance à son mari pendant qu'il soignait un patient.
Mais il a signé l'ordonnance, de nouveau a-t-il dit, parce que voilà, il aimait sa femme et qu'il ne voulait pas la contredire, etc. Donc voilà, il a signé l'ordonnance, il ne s'est pas posé de questions.
Il y avait un rapport d'amour et un rapport de dépendance. Pour lui plaire, pour lui complaire, pour ne pas avoir affaire à ses colères, chacune de ses exigences, même si cela n'était que caprice, était satisfaite.
Un rapport de force au sein du couple qui fait que Daniel ne s'étonne pas des 500 millilitres de chloroforme demandés par Thérèse.
Elle en a acheté dans des quantités incroyables et le pharmacien ou le droguiste qui lui avait vendu ce chloroforme s'était étonné de la quantité.
Une première expertise scientifique avait affirmé qu'Adèle aurait été morte noyée. Mais une telle quantité de chloroforme aurait-elle pu causer la mort de la jeune Adèle ? À la demande des avocats de la défense, de nouvelles expertises sont lancées.
La conjonction des expertises des différents experts confirme qu'elle est morte assez rapidement après la deuxième application du chloroforme, conjuguée avec le stress dû à l'agression.
L'association du chloroforme et du stress a déclenché un syndrome rare, une syncope blanche. Un phénomène qui n'arrive qu'une fois sur 1 million. Thérèse est donc bien à l'origine de la mort d'Adèle.
Dans l'esprit de Thérèse, il y a véritablement deux scènes bien distinctes. La première dans laquelle elle n'a qu'une seule intention, c'est de faire parler la pauvre Adèle. Puis ensuite la découverte du triste et non voulu résultat, c'est le décès. Et une folie qui s'empare d'elle, une panique qui lui fait faire ce qu'elle a fait.
La femme du dentiste affirme ne pas avoir voulu la mort d'Adèle. Mais l'affolement qui suit le drame a pourtant tout d'un scénario pour maquiller son crime.
En fait, elle a enlevé les habits, enlevé toute trace de d'identification. Que ce soit le soutien-gorge, les slips, elle lui a même arraché les bijoux.
Thérèse détruit également les papiers d'identité d'Adèle. Les effets personnels de la jeune assistante sont ensuite jetés dans les poubelles au bord de l'autoroute par Daniel.
C'est vrai que tout ce qui s'est passé après l'acte qui a causé la mort a joué un rôle déterminant, puisqu'on ne peut pas imaginer logiquement qu'une personne qui ne veut pas la mort de la victime puisse, après avoir constaté ce résultat non voulu, mettre en place une mise en scène pareille pour faire disparaître le corps et puis pour essayer d'échapper à sa responsabilité. C'est incompatible dans l'esprit commun avec le simple accident.
Thérèse est inculpée de meurtre et Daniel d'entrave à la justice et d'atteinte à la paix des morts. Quelle va être l'attitude des époux au procès ? La famille d'Adèle aura-t-elle toutes les réponses à ces questions ? Le procès des époux meurtriers s'ouvre le 7 septembre 1992 à la cour d'assises de Genève. L'affaire a été largement médiatisée, la salle est bondée et la famille d'Adèle n'attend qu'une chose, que Thérèse soit condamnée à 12 ans de réclusion, la peine maximale qu'elle encourt.
À l'ouverture de la première audience, d'abord, Adèle était représentée, c'était la volonté de la famille, par une photo. Un cadre dans lequel sa photographie était installée. Il y avait véritablement une ambiance très très lourde.
De leur côté, les accusés sont soudés, mais ne laissent transparaître aucune émotion.
Thérèse et Daniel sont sur le banc des accusés, ils se tiennent la main. Cette époque, ils sont soi-disant encore amoureux.
Entre eux. Cette absente, très humaine et morte, et cette vivante, très inhumaine, je crois que le public n'avait de cœur que pour Adèle.
Pourtant, les accusés essayent tant bien que mal de s'attirer les bonnes grâces des jurés. Si Daniel y parvient plus ou moins, Thérèse, elle, a beaucoup plus de mal.
Thérèse disait de manière continue qu'elle regrettait, se confondait non seulement en regrets mais en excuses, affirmait qu'elle n'avait jamais voulu cette issue, mais tout cela sonnait faux.
Lui, contrairement à elle, était effondré de ce qu'il avait fait.
Afin d'écarter la thèse selon laquelle Thérèse aurait pu préméditer son geste, ses avocats ont eu une idée pour le moins originale. Ils ont commandé un sondage auprès de la population afin d'évaluer quels sont dans l'esprit commun les effets du chloroforme. Et les résultats sont formels.
Cette étude révèle que 95% des personnes interrogées en fait, n'ont aucune idée que ce que le chloroforme peut tuer.
La majorité des gens avaient répondu « ça fait dormir ». Bien sûr, dans l'esprit des gens, ça évoque Tintin, et on endort Tintin ou d'autres avec du chloroforme. Donc la réponse était « ça fait dormir », ça ne tue pas.
Le sondage fait son effet auprès des jurés, qui, après 4 jours d'audience, condamnent Thérèse à 8 ans de prison. Son mari, lui, prend 2 ans pour entrave à l'action pénale et atteinte à la paix des morts. Pour les proches d'Adèle, c'est l'indignation.
Le jugement est tombé. Là, ça a été l'explosion dans la salle. Des hurlements. Le père est devenu complètement fou, a crié à l'injustice, que ce pays était horrible de condamner comme ça, si peu, que sa fille avait la souffrance de sa fille et de sa famille n'avait pas été reconnue. Enfin voilà, que lui, il avait travaillé pendant 30 ans en Suisse comme chauffeur de camion, et que c'était un scandale que ça se finisse comme ça. Et puis il a dû être évacué de la salle et ça a continué dans la rue avec tous les gens qui avaient entouré la famille qui continuaient aussi à crier.
Thérèse fait appel devant le tribunal fédéral, la plus haute instance suisse, et parvient à faire annuler le jugement au motif qu'elle ne souhaitait pas la mort de la jeune Adèle. En septembre 1995, la femme du dentiste est à nouveau sur le banc des accusés, mais cette fois pour homicide involontaire.
Alors là, c'est elle qui parlait. Alors elle s'explosait, elle parlait, elle pleurait, c'était juste incroyable. Et là, par contre, alors elle ne parlait plus à son mari. C'était terminé. Elle la traitait de tous les noms. C'était toute sa faute s'il y avait eu ce grand périple d'une nuit pour trouver un endroit, que c'était lui qui avait décidé.
Les jurés retiennent ce que Thérèse a toujours clamé haut et fort. Elle ne voulait pas tuer Adèle, mais simplement lui faire avouer cette liaison imaginaire avec son mari. Elle écope donc de 3 ans de prison. Ayant déjà purgé 4 ans, elle ressort libre de la salle d'audience. Dépités par la justice de leur pays d'adoption, les parents d'Adèle ont quitté la Suisse après le verdict du premier procès. Ils sont repartis vivre en Italie, leur pays d'origine.
La Suisse dont ils rêvaient leur avait pris leur fille et la justice de ce pays, selon leur perception des choses, n'avait pas apporté la bonne réponse.
Crime est toujours installé au bord du lac Léman et c'est à quelques kilomètres d'ici, à la frontière franco-suisse, que le 6 août 2011, le corps de Grégory a été retrouvé. Grégory est un homme de 34 ans qui cherche le grand amour, qui est un peu romantique et qui, faute de le trouver, se contente d'histoires d'un jour. Mais Grégory a une autre vie, plus sombre, et c'est cette autre vie qui explique peut-être le drame qui lui est arrivé. Voici ce document pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire tragique de Grégory, un jeune homme de 34 ans, mystérieusement assassinée au beau milieu d'un terrain vague. Un crime terrible qui, 3 ans après, continue de hanter le quotidien de toute une famille.
Vous dites pourquoi lui ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Et puis, c'est néant, c'est le trou complet. Et puis bon, là, vous décidez, coûte que coûte, il faut que j'aille voir ce qui s'est passé sur place. Il faut que je sache la réalité. Pourquoi ? Comment ?
Nous sommes en Haute-Savoie, à Annemasse. Située au nord des Alpes, la ville entourée par les montagnes est à seulement 7 km du lac Léman. Une proximité avec la Suisse qui permet aux Annemassiens de profiter de l'attractivité de Genève.
Genève et Annemasse se touchent. Il faut bien comprendre que ça fait des années que la frontière est gommée.
En apparence, Annemasse est une ville relativement calme. Pourtant, en septembre 2012, elle a été placée en zone de sécurité prioritaire.
On est une région assez riche, qui donc attire également les braqueurs et les cambrioleurs, qui font beaucoup de dégâts, qui font quand même beaucoup de dégâts sur le département.
C'est dans cette ville qu'habite Grégory, un jeune libraire de 34 ans. Nous sommes le samedi 6 août 2011. Après sa journée de travail, le jeune homme rentre chez lui vers 18h.
Comme la plupart des samedis, il rentre, donc avec ma mère, il mange, tout ça, la soirée se passe. Lui, il était dans sa chambre sur internet, tout ça. Bon, puis c'était prévu qu'il sorte avec des amis, boire un verre et puis aller dans une boîte de nuit du coin.
Ce soir, Grégory a un rendez-vous important. Sa meilleure amie doit lui présenter son nouveau petit copain.
Vers 22h30 à peu près, il se prépare et puis il dit à ma mère, bah, écoute, elle est en bas, donc son amie Gaïa, elle est en bas, j'y vais.
Mais son amie est en retard. Et c'est finalement seul que Grégory part la rejoindre en voiture.
Il y a eu des échanges SMS avec cette amie. Ils se sont dit, quand est-ce qu'on se retrouve ? Et puis bah, le dernier message de mon frère date de vers 23h, en lui disant, bah, écoute, j'arrive.
Au même moment, au commissariat d'Annemasse, le téléphone retentit une première fois. En ligne, un appel d'urgence, suivi dans la foulée d'un deuxième.
Un peu après minuit, les policiers sont prévenus par au moins 2 appels anonymes, passés depuis des cabines téléphoniques sur la commune d'Ambilly. 2 coups de fil passés par une même et seule personne qui indiquent de la présence d'un corps à côté d'un terrain vague.
Les policiers tente d'en savoir plus sur le mystérieux interlocuteur. Mais celui-ci refuse de décliner son identité. Alors, qui est la victime du terrain vague ? Et pourquoi un appel anonyme ? S'agit-il d'un crime ou d'un simple accident ? Grâce aux indications de l'appel anonyme, la police d'Annemasse est rapidement sur les lieux. C'est à la sortie de la ville, dans une allée entre un terrain vague et l'autoroute, qu'ils découvrent le corps.
Lorsque les enquêteurs arrivent sur les lieux, le corps est face contre terre, allongé à quelques mètres devant une voiture. Les enquêteurs remarquent tout de suite une plaie par balle et constatent le décès de la victime.
Dans un premier temps, les enquêteurs pensent qu'il s'agit d'un suicide. Comme le veut la procédure, ils appellent alors les experts pour procéder au relevé d'indices sur les lieux du drame.
La première chose qui leur apparaît, c'est qu'effectivement, une balle est retrouvée logée dans le siège passager de la voiture. L'angle d'entrée de la balle permet de comprendre que le tir a eu lieu de haut en bas, donc avec une pénétration au niveau de la tête de la victime.
À proximité du corps, ils découvrent une douille de petit calibre. La victime, elle, présente des ecchymoses sur le visage et le corps. La thèse du suicide est aussitôt abandonnée. Pour les enquêteurs, cela ne fait maintenant plus aucun doute. Il s'agit bien d'un crime.
Là, on est peut-être plutôt en présence de quelqu'un qui a été battu, mais qui n'a pas forcément pu se défendre, et qui ensuite a été tué à l'aide d'une arme à feu que l'on n'a pas retrouvée.
Mais à ce stade, la priorité des enquêteurs est de mettre un nom sur cette victime. Une tâche qui s'avère compliquée.
La victime n'est pas identifiable en l'état, pour la simple raison que son téléphone portable, ses cartes bancaires, ses papiers ont tous disparu, et ça ouvre l'hypothèse d'un crime crapuleux.
Les enquêteurs bouclent la zone pour tenter d'en savoir plus sur les circonstances du drame. Ils se rendent au centre de paintball, situé au bout de l'allée. Une dizaine de personnes sont présentes et fêtent un anniversaire.
Il y avait pas mal de monde quand même dans la zone qui entoure les lieux, qui se situe en fait à côté d'un paintball et à côté d'un terravaille.
En parallèle, les enquêteurs tentent toujours d'identifier la victime. Et ils vont y arriver grâce à la voiture.
Ce sera donc l'étude des plaques minéralogiques de la voiture, ainsi que la confirmation des empreintes digitales de la victime qui permettront d'identifier Grégory Mercier.
Mercier, un nom qui parle aux enquêteurs. Ils pensent immédiatement à leur ancien collègue de la criminelle d'Annemasse, le père de la victime.
J'ai appris que la PJ me cherchait depuis quelques heures, et c'est ma fille qui a réussi à me joindre. Et là, donc, ma fille m'a dit au téléphone, « Papa, il faut que tu rentres, j'ai quelque chose de grave à te dire. »
Je lui ai dit que Grégory a été assassiné, quoi. Donc, sûr que c'est pas évident d'annoncer ça à son propre père, qui est à 1000 km en plus, enfin, on peut pas... Mais on sait jamais trop comment dire ces choses-là, quoi.
On vous dit, ton fils a été assassiné, et puis vous ne réalisez pas, quoi. Vous dites, pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est néant, c'est le trou complet. Là, vous décidez, coûte que coûte, il faut que j'aille voir ce qui s'est passé sur place. Il faut que je sache la réalité. Pourquoi? Comment?
Grégory, le libraire de 34 ans, qui devait retrouver sa meilleure amie la veille au soir, a donc été assassiné. Qu'a-t-il pu lui arriver? Le jeune Annemassien a-t-il été victime d'un rôdeur? Ou la réalité est-elle beaucoup plus sordide? Le lendemain du drame, les enquêteurs d'Annemasse reviennent sur la scène de crime à la recherche d'indices pouvant expliquer ce drame. Mais la météo ne leur facilite pas la tâche.
L'enquête démarre très mal. Elle démarre très mal parce qu'effectivement, il pleut ce soir-là. Donc, les conditions dans lesquelles les relevés de traces et indices se font ne sont pas évidentes.
Le problème au cas d'espèce, c'est que c'est un meurtre qui est survenu en plein air. Et le vent peut balayer un certain nombre d'indices, parce qu'on passe souvent par des découvertes de cheveux ou de poils. Et là, le vent balaye tout.
Les enquêteurs décident alors de s'intéresser de plus près au profil de Grégory. Si aucun indice n'a pu être relevé sur la scène de crime, peut-être que l'enquête de personnalité ouvrira des pistes. À 34 ans, le jeune homme est décrit comme un garçon sans histoire et passionné de voyage.
Il adorait le Portugal, le Brésil, tout ce qui était langue étrangère, il avait été en fac pour ça, justement, pour être traducteur.
J'ai ma famille paternelle qui habite au Brésil. Et on avait effectivement un projet, je lui avais promis vraiment d'un jour, si je partais au Brésil, de l'emmener avec moi, puisque c'était un pays qu'il voulait vraiment connaître.
Depuis 3 ans, Grégory travaille dans une librairie du centre d'Annemasse. Il est décrit par ses collègues comme un garçon sans histoire.
On travaillait vraiment en collaboration tous les deux, donc c'est vrai que pour moi c'était quelqu'un de très très important, hein. C'est quelqu'un qui allait toujours bien, qui avait un rôle très important aussi dans mon équipe parce que gentil, agréable, serviable, toujours prêt à aider les autres.
En revanche, avec ses collègues comme avec sa famille, le jeune homme reste très discret sur sa vie sentimentale.
Il ne me racontait pas trop ses histoires, il était un petit peu secret, en tout cas dans ses histoires d'amour. J'étais une des premières à savoir qu'il était homosexuel. Il en a parlé d'abord à moi et ensuite à mes parents.
L'homosexualité, je l'ai appris tardivement parce que mon fils, en réalité, avait peur de me le dire. Et, Mais je le savais, moi je le savais de par son comportement. Mais c'est vrai qu'il a eu du mal à se confier, même à sa propre famille.
Grégory était un garçon secret et rêveur. En amour, il était un peu fleur bleue.
Il rêvait du grand amour, de voilà, la personne avec qui il allait faire toute sa vie, et voilà, mais comme beaucoup d'entre nous, quoi, enfin, ça paraît normal, on a envie d'être heureux, trouver la bonne personne, trouver sa moitié, mais il ne l'avait pas trouvé, quoi, encore.
Comme toute personne, il cherchait un compagnon certainement de vie, et de temps en temps, il allait quand même dans des endroits pas très bien fréquentés.
Alors Grégory aurait-il fait une mauvaise rencontre dans le milieu gay d'Annemasse ? Pour la police, il s'agit d'une piste à exploiter.
L'orientation sexuelle de Grégory Mercier a été évidemment prise en compte par les enquêteurs.
L'affaire est portée plus vers un crime homophobe, mais sans vraiment certitude.
Pour les enquêteurs, la zone sur laquelle le corps de Grégory a été retrouvé n'est peut-être pas anodine.
C'est un endroit qui est abrité des regards, assez discret, et qui est donc du coup, de par sa configuration, connu pour être un lieu de rencontre furtive, nocturne, que ce soit pour le milieu homosexuel, mais pas que. Il y a également des transactions de stupéfiants. Donc c'est un endroit qui est connu pour être peu éclairé et donc assez discret.
Les policiers apprennent que Grégory fréquentait régulièrement ce lieu de rencontre. Mais l'enquête de voisinage ne donne rien.
L'enquête n'a permis d'établir aucune personne qui pouvait en vouloir à Grégory Mercier.
Et donc, il se pose des questions, quoi. C'est normal, il ne sait pas vers où diriger l'enquête.
Grégory semblait bien accepté dans sa famille, au travail, mais aussi dans le milieu gay. Les enquêteurs sont donc dans une impasse. Qui pouvait en vouloir à Grégory, au point de le tuer ? Et pour quelle raison ? Pour tenter d'élargir leur piste, les enquêteurs d'Annemasse vont s'intéresser au relevé téléphonique de Grégory.
Il fréquentait les sites de rencontres sur Internet. Et ce soir-là, on sait qu'il active une borne à Archamps, donc à quelques kilomètres du lieu, et après ça s'arrête.
Mais les relevés n'en diront pas plus. Les enquêteurs se penchent alors sur les mystérieux appels anonymes. Trois coups de fil, deux à la police et un aux pompiers, passés depuis deux cabines téléphoniques différentes.
Les enquêteurs ont été faire des relevés d'empreintes, relevés aussi d'ADN sur les deux cabines. Il y a une première cabine près des lieux, à proximité, une autre cabine sur une autre commune près de la frontière, à Anglis.
Une nouvelle fois, les policiers font chou blanc. Les relevés ADN ne donnent rien. Mais fait étrange, cette seconde cabine est également située à côté d'un lieu de rencontre furtive.
C'est certainement une personne qui fréquente assidûment les lieux. Certainement quelqu'un qui ne veut pas qu'on sache qu'il est peut-être homosexuel.
Commence alors une enquête de voisinage qui va s'avérer compliquée.
On est en présence au sein de ce milieu-là de gens qui ne sont pas forcément enclins à s'exprimer, à témoigner auprès des forces de l'ordre, à expliquer dans quelles circonstances elles ont pu rencontrer la victime, la fréquenter, depuis combien de temps. Ce sont des informations qui sont toujours assez difficiles à obtenir.
Les policiers d'Annemasse n'insistent pas. Et face à la complexité de l'affaire, ils obtiennent du renfort. La police judiciaire d'Annecy prend les choses en main. Les nouveaux enquêteurs demandent alors leur rapport d'autopsie. Mais les images du scanner manquent à l'appel.
Lorsqu'un médecin légiste pratique une autopsie, le corps a été scanné au préalable. Et donc l'autopsie se fait avec les images du scanner.
À l'époque, une panne informatique avait perturbé la procédure habituelle.
Il y a eu effectivement une panne du scanner, du moins les images ont été prises, mais n'ont pas pu être exploitées.
Décidément, le sort s'acharne sur les policiers. Trois mois plus tard, ils récupèrent enfin les images et vont faire une découverte surprenante.
Cette nouvelle autopsie va révéler à l'imagerie deux balles tirées dans le corps de Grégory Mercier.
Grégory a été enterré trois mois auparavant. Mais suite à cette révélation, le juge d'instruction demande immédiatement l'exhumation du corps pour procéder à une nouvelle autopsie. Un coup dur pour la famille de Grégory.
Pour nous, c'était un deuxième enterrement, quoi. Enfin, on n'avait pas besoin de ça en plus pour avancer, quoi. Nous, on a l'impression que du coup, personne fait son travail comme il faut. Ça a été vu que trois mois après, ça aurait très bien pu être fait tout de suite.
Pour les enquêteurs, c'est un mal pour un bien. Et suite à l'autopsie, un nouveau rapport balistique est rendu. Les experts n'ont pas de certitude quant à la trajectoire du deuxième tir. Mais ils dressent une terrible hypothèse.
La trajectoire du deuxième projectile, effectivement, laisse apparaître un tir au niveau de la bouche de Grégory Mercier. Donc ce nouvel élément est capital pour les enquêteurs, puisqu'effectivement, il vient accréditer la thèse véritablement d'une volonté de tuer.
On a affaire à des méthodes clairement professionnelles. Aujourd'hui, on n'a aucune certitude sur l'auteur des faits, mais la méthode, la détermination, le sang-froid, l'organisation, la préméditation, tout ça évidemment nous interroge.
Une interrogation renforcée par les résultats des analyses toxicologiques de la victime. Elle révèle que Grégory était sous trithérapie, un traitement contre le virus du sida.
On savait qu'il était séropositif, on ne l'a pas appris à ce moment-là. Par un contrôle banal, il l'a su, et c'est ça qui a fait la séparation avec son ex-compagnon, en fait. Le fait qu'il soit séropositif et que son compagnon ne l'était pas, du coup.
Grégory aurait-il été victime d'une vengeance d'un ex-compagnon ou tout simplement d'un crime homophobe? C'est maintenant aux enquêteurs de vérifier le sérieux de ces hypothèses. Les enquêteurs almaciens multiplient leurs recherches, mais ne parviennent à dégager ni suspect, ni mobile. Une situation difficile à vivre pour le père de la victime.
La personnalité du père de la victime, qui se trouve être un ancien policier de la brigade d'Annemasse, va mettre un peu la pression tout de même aux enquêteurs. Et donc Noël Mercier ne s'en cache pas d'ailleurs, en pointant rapidement de nombreux dysfonctionnements dans l'enquête.
Le surlendemain du drame, l'ancien policier décide de reprendre du service officieusement et se rend sur les lieux du crime. Il espère trouver des indices.
On va un petit peu relever des éléments, si on peut en trouver, regarder un petit peu dans les fourrés, pour essayer de voir si nous, de notre côté, on trouve quelque chose qui pourrait éventuellement renseigner les enquêteurs pour les faire avancer au plus vite, quoi.
Si Noël ne trouve aucun élément significatif sur place, il donne une précieuse information aux enquêteurs. Son fils possédait un carnet de tickets restaurants qu'il avait toujours sur lui.
Ce carnet, on ne l'avait jamais retrouvé. On s'est dit qu'il a dû être volé au moment des faits.
Les enquêteurs demandent alors à la société émettrice des carnets de signaler tout mouvement de ces tickets. Un moyen de localiser le meurtrier s'il les a utilisés.
Quelques mois après, on apprend que oui, effectivement, des tickets restaurants ont été utilisés. Donc 6 tickets restaurants en septembre-octobre 2011, donc oui, 2-3 mois après. Et ce qui paraît bizarre, c'est que ces tickets restaurants ont été utilisés dans les endroits où Grégory allait manger habituellement avec ses collègues.
Mais trop tard, les enquêteurs n'ont pas informé les commerçants d'Annemasse et les tickets ont tous été utilisés.
Ayant ces informations, il est quand même pas normal que des policiers comme ça n'aient pas mis en évidence que d'aller tout de suite au plus près pour éventuellement faire une information auprès des commerçants en disant attention, il y a eu un assassinat, mais il y a des carnets qui ont été volés, on vous donne les numéros de tickets, éventuellement si vous pouvez relever, voir les numéros pour voir et puis aviser la police tout de suite si vous avez quelqu'un qui se présente avec ces numéros. Donc ça aurait permis peut-être d'avancer.
Mais aujourd'hui, cette piste, eh bien, elle est écartée, et cet outil des tickets restaurants est périmé parce qu'effectivement, il faut passer à autre chose et parce que ça n'a rien donné de très probant.
Mais ce n'est pas le seul manquement dans l'enquête que souligne Noël Mercier. Si les parents ont été interrogés dans les deux jours suivant le drame, l'entourage proche s'étonne de certaines lenteurs.
Dans l'équipe, après le décès de Greg, personne n'a été interrogé. Personne. On a été interrogé pratiquement plus d'un an après. Hein, effectivement. Alors là, effectivement, on m'a demandé de donner les coordonnées de l'ensemble des personnes qui travaillaient avec Greg, y compris les gens qui avaient quitté la société.
Je n'ai jamais été auditionné. Jamais. Ça aussi. Le seul bar gay-friendly de la région, un endroit où il venait de temps en temps, où je m'attendais à voir quand même les policiers venir m'interroger, si je le connaissais, jamais.
L'enquête est sous le secret de l'instruction. Et les proches s'interrogent sur les raisons de cet assassinat. Faute d'informations, chacun y va de sa conviction.
On a dit crime homophobe. Personnellement, j'ai toujours eu un doute. Ça me paraît bizarre quand même. On veut faire du mal à un homosexuel. Ok, on va là-bas, il le frappe ou il lui donne une correction parce que voilà, c'est pas leur conviction. Mais de là à le subir tout ce qu'il a subi, puis le tuer d'une balle dans la tête, enfin ou dans la nuque, je sais pas exactement. J'ai toujours pensé que ça pouvait être autre chose qu'un crime homophobe.
Pour moi, Grégory connaissait la personne qui l'a assassiné. Il a été attiré, à mon avis, là-bas exprès. Pour moi, ça ressemble à un guet-apens.
Des zones d'ombre qui inquiètent la famille et qui posent la question d'une éventuelle récidive.
Il faut se dire quand même qu'il y a un assassin en liberté, quoi. Et que s'il a tué Grégory, comme on ne connaît pas les raisons, peut-être qu'il peut tuer quelqu'un d'autre, peut-être que... Enfin, on ne sait pas.
Malgré le peu d'informations dont elle dispose, la famille met tout en œuvre pour tenter d'en savoir plus sur ce drame. Quels moyens les proches de Grégory vont-ils utiliser pour connaître la vérité? Permettront-ils des avancées significatives dans l'enquête? Le 16 septembre 2012, un an après le drame, pour ne pas que l'assassinat de Grégory tombe dans l'oubli, la famille organise une marche blanche.
C'est dans un climat de grande dignité que plus de 200 personnes quand même ont suivi Noël Mercier jusqu'au lieu du drame, jusqu'au lieu où a été découvert Grégory Mercier. 200 personnes, beaucoup d'amis, beaucoup de proches, beaucoup d'Annemassiens aussi qui tout simplement ont été touchés par l'affaire.
C'est en tout cas une évidence pour moi d'y être, d'y participer et d'exprimer effectivement cette souffrance de voir que rien n'avançait, qu'un an après, on en était toujours au même point.
L'événement est relayé dans la presse locale. Pour la famille, c'est aussi un moyen de réveiller les consciences et de relancer l'enquête.
Moi, ce que je veux, c'est essayer d'apporter peut-être des éléments que les policiers n'ont pas, par l'intermédiaire d'amis qui auraient des choses à me dire, ou par l'intermédiaire d'informations que je pourrais y récupérer de ci, de là.
Tout au long de sa vie, le papa de Grégory Mercier l'a consacré à des enquêtes, à des investigations. Et là, effectivement, je crois pouvoir vous dire que c'est l'enquête de sa vie.
À ce jour, 3 ans après le meurtre de Grégory, l'affaire n'est toujours pas élucidée. Si les enquêteurs affirment qu'il y a des avancées, aucun mobile et aucun suspect n'ont pour l'instant été identifiés. Depuis le drame du 6 août 2011, Noël, lui, ne cesse de penser à son fils.
C'est l'anniversaire de mon fils aujourd'hui, il aurait eu 37 ans.
37 ans. Et on pleure sa mort encore aujourd'hui, parce que son assassin n'a pas été découvert. Et c'est pour nous une journée terrible. Mais on doit toujours penser à lui. C'est notre fils. Et chaque année, on sera là pour lui fêter son anniversaire.
C'est une année qui a mal commencé, ce 4 janvier 2006. La police a en effet découvert, dans une maison de Vevey située au bord du lac Léman, le corps de deux femmes, Ruth et sa meilleure amie. Toutes les deux ont été sauvagement assassinées. Selon les premiers éléments de l'enquête, ce meurtre remonte au 24 décembre. Rapidement, les soupçons vont se porter vers un homme, François, le fils adoptif de Ruth. Mais a-t-il vraiment assassiné cette femme qu'il aimait plus que tout au monde? Voici ce document pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'incroyable histoire d'un triple meurtre perpétré de sang-froid qui va anéantir la vie d'une des familles les plus riches de la Riviera suisse. Un drame terrible qui a passionné et tenu en haleine la Suisse pendant plusieurs années.
Un crime comme l'affaire Liège, il y en a allé 2 ou 3 par siècle dans le canton de Vaud. C'est d'une ampleur assez extraordinaire, dans le sens originel du terme. On n'a pas l'habitude de voir des choses comme ça en Suisse.
Nous sommes en Suisse, à Vevey. Situé au bord du lac Léman, à une 20aine de kilomètres de Lausanne, la ville est connue pour avoir été la résidence de Charlie Chaplin pendant 35 ans. Une commune très agréable qui attire une population plutôt aisée.
C'est une petite ville de 17 000 habitants qui est située dans la région qu'on appelle la Riviera.
C'est une ville où on est calme, où on est en paix, où il ne se passe rien, on sort, on va au théâtre, on va au restaurant et voilà.
C'est dans les hauteurs de Vevey que se trouve le quartier des résidents huppés. Mais ce 4 janvier 2006, une de ces villas semble étrangement calme.
Ce jour-là, le jardinier remarque qu'il y a des paquets qui ne devraient pas être là, ou qui, en tout cas, il y a des éléments un peu bizarres.
À la villa des Rurettes, la boîte aux lettres déborde. Le courrier n'a pas été relevé depuis plusieurs jours.
Et c'est lui qui s'inquiète du fait que personne ne bouge dans la maison.
Alerté par l'aboiement d'un chien, le jardinier, qui possède les clés de la villa, se risque à y entrer.
Le jardinier découvre qu'il y a 2 chiens, un qui est mort de faim, et l'autre qui est quasiment à l'agonie.
À l'intérieur, tout semble normal. Le jardinier s'avance un peu et fait une terrible découverte.
Il y a un escalier qui descend au sous-sol, et il se retrouve face à 2 cadavres.
Terrorisé, l'homme appelle immédiatement la police et raconte le funeste spectacle qui s'offre à lui. Une fois sur place, les policiers font un premier constat. À l'étage, aucune trace d'effraction, ni de cambriolage.
Il y avait des objets de valeur. Il y avait un coffre avec de l'argent, rien n'a disparu.
Il n'y a donc en tout cas pas eu une fouille des lieux comme on la rencontre lorsque des cambrioleurs se sont introduits dans une maison.
Les policiers s'engagent alors dans le sous-sol de la villa. À cet instant, ils sont loin d'imaginer l'horreur de la scène qui les attend.
Alors ils voient 2 dames qui sont dans un état de... déjà avancé ou relativement avancé de putréfaction et qui sont quasiment entassés au bas d'un escalier. Et dans un premier temps, c'est impossible de savoir ce qui s'est passé, si elles ont eu un accident, si elles se sont entraînées les deux au bas des escaliers. Et c'est plutôt mystérieux.
Immédiatement, la police locale prévient la police scientifique. Seule certitude, les deux victimes sont des femmes d'un certain âge. Qui sont-elles ? Ont-elles été victimes d'un accident domestique ou d'un règlement de compte ? Que s'est-il passé ce matin d'hiver dans ce quartier huppé ? À Vevey, les enquêteurs de la police scientifique arrivent à la villa des Rurettes. D'après les informations fournies par les policiers, l'une des deux victimes serait la propriétaire de la maison, Madame Ruth Hergel, 81 ans. Et pour les experts, la scène ne ressemble en rien à un accident.
En arrivant, je constate la présence donc de deux corps de femmes en bas d'un escalier assez abrupt. Et puis, dans une situation allongée sur le ventre et ayant manifestement souffert d'un traumatisme important avec du sang présent qui laisse donc évoquer ce diagnostic.
Des traces de sang sont également présentes sur les murs de la villa. La thèse de l'accident est donc écartée. Mais les experts vont être confrontés à une autre difficulté.
Les corps sont dans un état de décomposition avancé. On va se rendre compte qu'en réalité, ces personnes sont mortes depuis un nombre relativement important de jours. Ce sous-sol est bien chauffé. Et ça a par conséquent sur les corps un effet de décomposition qui est un effet fort.
Difficile donc d'estimer la date de la mort des victimes. Les experts procèdent au relevé des traces et d'indices sur la scène de crime. Mais un détail va attirer leur attention.
Dans le constat de police scientifique, on observe dans la main gauche une touffe de cheveux qui... est intéressant, bien entendu.
Autre indice, sur le dos d'une des victimes, les experts relèvent une trace de main, ainsi qu'une empreinte partielle de chaussure. De nouveaux éléments qui sont immédiatement envoyés au laboratoire pour analyse. Les dépouilles, quant à elles, sont transportées pour autopsie. Mais en les manipulant, les médecins légistes vont faire une étrange découverte.
Alors, au moment où on procède à lever des corps, on observe une paire de ciseaux qui se trouve près de liquide de putréfaction. Ciseaux qu'on prélève, qu'on sèche et qu'on met en pièce à conviction.
À première vue, d'après le légiste, les ciseaux ne sont pas compatibles avec les blessures constatées. Dès lors, c'est l'ensemble de la villa qui est passé au peigne fin.
Les enquêteurs vont procéder à plus d'une centaine de prélèvements de traces. Ceci aussi bien sur les lieux précis où les deux corps sont retrouvés, la cage d'escalier, le couloir qui se trouve au sous-sol, la chambre qui est au bout du couloir, qu'à l'étage supérieur.
Alors que les différents prélèvements sont en cours d'analyse, les premiers résultats ADN tombent. Les enquêteurs parviennent à identifier formellement les deux femmes. Il s'agit bien de Ruth et Hergel, une veuve de 81 ans et de son amie de longue date, Marina Studer, 80 ans, venue passer les fêtes de Noël chez elle.
Ces deux dames de 80 ans qui ont souffert, en tout cas pour Madame Studer, et là aussi, c'est marquant que quand on a des personnes en fin de vie, disons 80 ans, doivent partir dans ces conditions. Là, c'est choquant.
L'autopsie des corps fait état de multiples et graves blessures. Des fractures thoraciques pour Ruth et un traumatisme crânien pour Marina. Mais les experts ne sont pas en mesure de dater le crime. Alors, à quand remonte le drame ? Et qui pouvait en vouloir à ces deux octogénaires ? Est-ce un conflit qui aurait mal tourné ? Avait-elle des ennemis ? À Vevey, le meurtre de Ruth et de Marina, les deux octogénaires, suscite l'incompréhension et une véritable indignation parmi la population.
Un crime comme l'affaire Brière, j'ai là allé deux ou trois par siècle dans le canton de Vaud. C'est d'une ampleur assez extraordinaire, dans le sens originel du terme. On n'a pas l'habitude de voir des choses comme ça en Suisse.
Si les enquêteurs sont parvenus à identifier les victimes, la datation du crime s'avère bien plus complexe. Ils parviennent néanmoins à savoir que le courrier du 24 décembre a bien été ouvert dans la matinée. Mais c'est la livraison d'un colis qui va apporter plus de précision.
Le facteur des colis qui va passer va sonner en vain à la porte. Personne ne va répondre à 10h45 le samedi 24 décembre et ces colis ne rentreront jamais dans la maison. Ils seront retrouvés à cet endroit-là le 4 janvier.
Pour les enquêteurs, le crime aurait donc été commis en fin de matinée. Une hypothèse créditée par l'autopsie. Le dernier repas mangé par Ruth et son ami était un petit déjeuner. Faute d'éléments tangibles, et pour comprendre les circonstances du drame, l'enquête va alors s'orienter vers l'histoire de la famille Hergel.
C'est une famille très très aisée, qui s'est enrichie très très vite. Le père est architecte. Il faut savoir que beaucoup d'immeubles dans les rues de Vevey portent l'empreinte de Charles Hergel, l'architecte.
Une famille aisée, mais aussi et surtout heureuse. Car ce qui rend fier ce couple, ce sont ses enfants.
Ils ont deux enfants, Marie-Josée et François, qui est donc le fils de cette famille. Et par la suite, ils vont adopter deux orphelins venant des Indes.
Pourtant, Ruth est une femme meurtrie. Un de ses fils est décédé, un autre ne lui parle plus depuis plus de 12 ans. Reste sa fille, Marie-Josée, et son fils adoptif, François. Les policiers ont alors la lourde tâche de lui annoncer la terrible nouvelle. Car comme dans toutes les affaires criminelles, c'est la famille proche que l'on interroge en priorité.
Sa toute première version était qu'il n'était pas sur les lieux au moment des fêtes, en fait. C'était sa toute première version. Je n'étais pas sur les lieux, je n'en sais rien, je ne sais pas ce qui s'est passé.
François ne leur apprendra rien de plus sur le jour du drame. Les enquêteurs se tournent alors vers sa sœur, Marie-Josée. À 56 ans, ce médecin à la retraite habitait avec sa mère. Problème, Marie-Josée est injoignable. Pourtant, sa voiture est garée devant la villa. Une femme affirme pourtant l'avoir vue peu avant Noël.
Marie-Josée, Hergel, la fille, va aller faire au centre de la ville de Vevey, dans un centre commercial, où elle sera rencontrée par une ancienne patiente. Vous savez qu'elle était médecin. Et cette ancienne patiente va la rencontrer peu avant midi. C'est 11h45, 11h50. Or, les courses faites par Marie-Josée Hergel, courses d'une certaine importance, n'ont jamais été retrouvées dans la maison.
Personne ne semble avoir vu Marie-Josée depuis la matinée du 24 décembre. Sa disparition est-elle en lien avec le meurtre de Ruth et de Marina? Aurait-elle pu subir le même sort que les deux octogénaires? Où est-elle, la meurtrière? À Vevey, les enquêteurs poursuivent leurs investigations. Ils espèrent que les nouveaux indices les mettront sur la voie du meurtrier des deux octogénaires. Premier objectif, trouver le propriétaire de la chaussure dont l'empreinte a été découverte sur le corps de Marina Studer.
Aucune paire de chaussures de ce type n'a été retrouvée chez les différentes personnes où des perquisitions ont eu lieu.
Reste la trace de main, retrouvée sur les vêtements de l'ami de Ruth Hergel. Mais là encore, les enquêteurs vont déchanter.
Et vu la qualité, la mauvaise qualité de cette trace, l'ensemble des personnes qui possèdent une main moyenne, homme ou femme, peuvent être à l'origine de la trace retrouvée.
Dès lors, les enquêteurs ne disposent plus que d'une seule piste, la touffe de cheveux retrouvée dans la main de Ruth Hergel. Et les analyses ADN sont formelles. Ces cheveux appartiennent à Marie-Josée Hergel, la fille de la défunte, portée disparue depuis le 24 décembre.
Ces cheveux ne sont pas des cheveux qui paraissent avoir été arrachés comme on arracherait une touffe de cheveux à une personne, par exemple lors d'une bagarre. Les racines ne sont pas orientées dans la même direction et ça ressemble beaucoup plus à des cheveux qui auraient été pris sur une brosse à cheveux.
Pour les policiers, c'est désormais une certitude. Le crime des deux octogénaires a tout d'une mise en scène. Et contre toute attente, c'est à la faveur de nouveaux résultats, tombés 3 semaines après le drame, qu'ils vont enfin être mis sur la piste d'un suspect.
Il y a effectivement sur la chemise de nuit de Madame Leray une déchirure et un prélèvement a été fait à cet endroit-là, prélèvement qui par la suite permet d'identifier le profil ADN de François Hergel.
Dès lors, François Hergel devient le suspect numéro 1. Mais les enquêteurs vont délibérément passer cette preuve sous silence, car ils veulent en savoir plus sur François avant de procéder à son interpellation. Fils adoptif des époux Hergel, il est né en Inde et est arrivé en Suisse à l'âge de 9 ans.
C'est un personnage, François Hergel, très introverti, qui... Mais il faut savoir d'où il vient, c'est un petit gamin adopté qui sort d'un bidonville et qui se retrouve dans une famille de milliardaires. Donc il se retrouve dans le magasin de jouets en quelque sorte, c'est le Père Noël tous les jours. Il a des parents qui ont été très aimants, Charles et Ruth ont vénéré ce gamin, Ruth l'appelait mon trésor.
Après avoir suivi une scolarité normale à Lausanne, il fait des études d'infirmier, puis travaille dans une clinique de la région. Mais à 40 ans, après son divorce, il décide de tout arrêter pour se consacrer à la gestion du patrimoine familial.
Il s'occupe de la gestion des immeubles de sa mère à Vevey, pour laquelle il touche un salaire. Il vit dans une maison au Mont de Corsier, une belle maison avec des animaux qu'il adore. Il passe du temps dans son jardin. C'est un personnage vraiment très replié sur lui-même, très, très taciturne, qui n'extériorise rien.
Pour ne passer à côté d'aucun indice, les enquêteurs perquisitionnent sa maison au Mont de Corsier. Ils tombent sur des lettres échangées entre François et Marie-Josée, sa sœur, toujours portée disparue.
Cette correspondance va révéler des tensions, des luttes, des conflits qui sont extrêmement forts. Marie-Josée et François Hergel étaient propriétaires, mais tout le produit des immeubles, c'est une fortune importante, tout le produit des immeubles, les loyers, revenait à Ruth tant qu'elle était vivante.
On est dans une famille où le pognon a provoqué des déchirures, des déchirements, des drames, et ce qui a beaucoup chagriné évidemment Ruth à la fin de sa vie.
Les lettres révèlent aussi que Marie-Josée accusait François de vivre au-dessus de ses moyens et de dilapider la fortune familiale en profitant de la générosité de sa mère.
Au fur et à mesure des années, elle lui a donné des dizaines, probablement même parfois des centaines de milliers de francs. Elle lui offrait des voitures. C'était son fils chéri, c'était son chouchou, c'était le petit dernier. Elle l'adorait.
Et justement, en décembre 2005, François Hergel a une fois de plus un grand besoin d'argent.
Et à ce moment-là, va arriver quelque chose qui n'était jamais arrivé jusqu'alors. C'est que Ruth Hergel, au lieu de lui dire « Oui, François, on va trouver une solution, je vais te verser de l'argent, on va faire en sorte que ça joue », pour la première fois, elle lui dit non.
Pour les enquêteurs, le mobile du crime se dessine. Entre la trace ADN retrouvée sur la chemise de nuit de sa mère et les difficultés financières, les policiers interpellent François Hergel. Mais que va-t-il dire en garde à vue ? Est-il vraiment le meurtrier ? Et où est Marie-Josée Hergel ? L'aurait-il fait disparaître ? François Hergel est placé en garde à vue. Et malgré les preuves qui l'accablent, lors de l'interrogatoire, l'homme persiste et signe. Il n'était pas chez sa mère le 24 décembre 2005, dans la matinée.
Et il est resté 2-3 heures à Lausanne. Il est allé, c'est assez beau, il est allé dans quelques magasins, il s'est assis sur un banc. Il n'a rien fait de très spécial. Il n'a pour finir rien acheté. Il n'a donc pas de preuves matérielles qu'il était à Lausanne ce jour-là.
Pour les enquêteurs, l'alibi de François ne tient pas. Pire, il semblerait que l'homme ait eu un comportement étrange cette fin de journée du 24 décembre.
Et puis, dans la soirée du 24 décembre, il va de nouveau y avoir une absence étrange, puisqu'il va quitter le lieu où on était en train de passer Noël en famille, dans la famille de son ami, où ils sont arrivés vers 17h30, sauf erreur, ou 17h. Il va quitter ce lieu pendant 2h, 2h30, donc il paraît bien long pour ce qu'il raconte avoir fait pendant ce moment-là.
François raconte être allé nourrir ses animaux. Des explications qui ne convainquent guère les enquêteurs. Eux pensent qu'il serait retourné sur les lieux du drame pour maquiller son crime. Durant 4 jours, François persiste. Les policiers abattent alors leur dernière carte et le mettent face à la preuve qui l'accable.
Et puis, le 6 février, le juge d'instruction lui dit « Ben voilà, on a trouvé votre ADN sur la chemise de nuit de votre mère ». Et là, François Berger va changer sa version.
Il dit « Oui, en fait, je suis venu ici, j'ai sonné à la porte, Marie-Josée m'a ouverte, elle était complètement hagarde, complètement ébouriffée, elle m'a dit qu'elle venait, venait d'y avoir un terrible drame, que maman était morte, que Marina était décédée elle aussi, au pied des escaliers, j'ai aidé à déplacer les corps. » Enfin, il commence à construire un scénario complètement délirant.
Un scénario auquel personne ne croit à l'hôtel de police. Les policiers émettent alors une hypothèse. À court d'argent, François Hergel aurait une nouvelle fois fait appel à sa mère. Face à son refus, la situation aurait mal tourné.
Le scénario, c'est que François Hergel aurait pété les plombs, comme on dit, poussé sa mère dans les escaliers, dans un accès de rage, et qui se serait fait acharner sur elle, ainsi que sur l'ami témoin qu'il a éliminé.
C'est à cet instant que sa sœur Marie-Josée serait rentrée des courses vers midi. Un témoin gênant qu'il aurait alors décidé d'éliminer. Les enquêteurs vont mettre en place un incroyable dispositif pour tenter de retrouver son corps.
Et on analyse la voiture, les voitures de François et pas de traces d'ADN de Marie-Josée. On a été jusqu'à faire des fouilles dans la villa des maisons où habitait François. On a été jusqu'à la chercher dans des endroits mais hallucinants et on n'a rien retrouvé. Alors évidemment, ensuite, les juges ont dit « Ah, elle peut être au fond du lac, elle peut avoir été quasiment mise dans des sacs poubelles et incinérée, ni vue ni connue ». On a avancé toutes sortes d'hypothèses, mais ce ne sont évidemment que des hypothèses. On n'a pas la preuve que Marie-Josée Hergel est morte.
8 mois plus tard, alors qu'il est toujours en détention provisoire, une ultime preuve accable François. Sur les ciseaux retrouvés sous le corps de Ruth Hergel, 2 traces ADN, celle de la victime et celle de François Hergel. Des traces qui laissent penser que Ruth a tenté de se défendre.
À partir de là, François Hergel ne va quasiment plus répondre aux questions qui lui sont posées. Même quand on le confronte à ce nouvel élément, il ne fournit pas d'explication. Il dit qu'il s'expliquera devant le tribunal.
Il s'est peu exprimé, il s'est muré dans le silence. Et il a dit « je m'exprimerai au procès, je ferai une déclaration au procès, je me livrerai, je m'exprimerai, je m'expliquerai au procès. »
François Hergel est inculpé de 3 assassinats. Il est accusé d'avoir tué sa mère, Ruth, et son amie Marina, mais aussi d'avoir fait disparaître sa sœur, que les enquêteurs ne parviendront jamais à retrouver. Alors, quelle va être son attitude au procès et qu'a-t-il de si important à révéler ? Le procès de François Hergiel s'ouvre le 16 juin 2008 au tribunal criminel de Vevey. L'affaire a été largement médiatisée et a déchaîné les passions dans la région.
La salle d'audience était pleine. Justement, la famille, les personnes impliquées étant très connues. Dans la région, le procès était attendu aussi parce qu'on espérait qu'il apporterait des éclaircissements sur toutes les zones d'ombre de cette affaire.
Dans le box des accusés, et malgré ces 2 années de détention, François Hergiel adopte une attitude qui dérange et qui ira même jusqu'à le desservir.
Au procès, François Hergiel est un peu hautain, un peu arrogant. Il explique. On a l'impression qu'il veut parler à la place de ses avocats, alors qu'on attendait de lui une attitude plus profil bas.
L'homme se montre bavard, et cela tombe bien, car il avait affirmé qu'il s'exprimerait lors de son procès. Le public et les magistrats attendent ce moment depuis plus d'un an, et tous sont suspendus à ses lèvres.
On ne savait pas du tout ce qu'il allait expliquer devant le tribunal, mais je me disais, va-t-il enfin avouer enfin, bref, ça c'était le gros point d'interrogation, au fond. Et le président se tourne vers François Hergiel et l'interroge. Il lui dit, monsieur Hergiel, qu'avez-vous à dire maintenant? Et là, François Hergiel dit, tout ce que j'ai déclaré à la police, je l'ai inventé. Alors ça, c'est une forme de coup de théâtre.
2 ans auparavant, François avait affirmé être allé à la villa des Rurés le 24 décembre et s'être retrouvé face à sa sœur. Elle lui aurait alors demandé de déplacer le corps sans vie de Marina pour le placer à côté de celui de Ruth. Mais dans la salle d'audience, il retourne sa veste. Il aurait monté ce scénario sous la pression policière. Dans l'assemblée, tout le monde est stupéfait.
Évidemment, les magistrats qui le jugent à ce moment-là n'en croiront pas un traître mot. Ouais.
Pendant 10 jours, les témoins se succèdent à la barre. Rien ni personne ne permet de lever les zones d'ombre qui subsistent quant à l'emploi du temps de l'accusé le jour du drame. Pendant plusieurs heures, les jurés vont débattre et finissent par rendre leur verdict.
Alors le verdict, c'est donc il est reconnu coupable de triple assassinat et il est condamné à perpétuité, la prison à vie.
Mais 6 mois plus tard, nouveau coup de théâtre. Alors que François est derrière les barreaux, un témoignage relance l'affaire. Une boulangère affirme avoir vu Ruth Hergiel après l'heure supposée du double meurtre.
En fait, cette brave boulangère vient raconter qu'elle a bien vu Ruth Légeret et sa fille dans une boulangerie à Vevey.
Un témoignage jugé crédible par la justice suisse et qui remet en question la culpabilité de François. Le 1er mars 2010, l'affaire est donc rejugée, avec en témoin clé la boulangère de Vevey. Dès le début de l'audience, le procureur, convaincu que ce nouveau procès n'a pas lieu d'être, va déstabiliser le témoin.
En l'interrogeant, en la mettant sous pression, il va mettre en évidence que finalement, elle a pu se tromper, que ses souvenirs n'étaient peut-être pas si précis. La cour retiendra que la boulangère s'est trompée, qu'elle s'est trompée d'un jour, en fait, effectivement, et que son souvenir remonte au jour d'avant. Donc au 23 décembre.
La salle est sous le choc. François, lui, est anéanti. Finalement, le témoignage de la boulangère n'est pas retenu. La condamnation de l'accusé est confirmée. Ce sera la prison à perpétuité. Depuis sa cellule, François Hergiel clame toujours son innocence. Il multiplie les recours auprès des différentes instances, en vain. En 2012, il abat sa dernière carte et saisit la Cour européenne des droits de l'homme, qui rejette également sa demande. Sauf élément nouveau, l'homme, âgé aujourd'hui de 49 ans, devrait passer la fin de ses jours en prison.
Alors, on a vu beaucoup de détenus clamer leur innocence et être innocents, beaucoup d'autres être coupables. Moi, j'ai vraiment pas d'avis, est-il coupable ou pas. Je dis simplement, quand il y a le moindre doute, le doute doit profiter à l'accusé. Et dans ce cas précis, dans ce mystère-là, le doute ne lui a absolument pas profité.